France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Monté pour la première fois en 1947, Le mal court est la deuxième pièce de Jacques Audiberti. Conte philosophique parodiant le théâtre du XVIIIe, elle rencontra un grand succès dès sa création par Georges Vitali. Un art de la langue savoureux, ponctué de répliques qui font mouche, Le mal court est devenu, au fil des années, un classique du théâtre moderne, même si son auteur ne connaît sans doute pas une postérité égale à celle de Beckett, Genet ou Ionesco. En 1955, toujours avec Georges Vitali comme partenaire et metteur en scène, Suzanne Flon reprenait, au théâtre La Bruyère, le rôle d'Alarica, princesse de Courtelande, qu'elle avait créé après-guerre. En 1956, sur la chaîne nationale, Plein feu sur les spectacles du monde recevait Georges Vitali, Suzanne Flon et Jacques Audiberti, interrogés sur son œuvre poétique, romanesque et surtout théâtrale.
Monsieur Georges Vitali, on peut dire que vous devez beaucoup à Audiberti, puisque c'est avec sa pièce que vous avez remporté le Grand Prix du théâtre au concours des jeunes compagnies de 1947, concours qui était alors très âpre, très disputé et des plus valables. Mais on peut dire aussi qu'Audiberti vous doit quelque chose, car il est toujours très précieux pour un auteur comme lui de se voir compris et mis en scène comme vous l'avez fait.
Je crois, et pardonnez-moi cette banalité, le théâtre est une question de conjugaison de force, d'équipe, et je crois que l'heureuse rencontre entre Jacques Audiberti et moi-même et aussi celle de Suzanne Flon et du texte d'Audiberti ont concouru heureusement pour les uns et pour les autres.
La présence d'Audiberti au théâtre a été une sorte de révolution, tout au moins pour une grande partie du public, qu'il a à la fois saisi et captivé.
Je crois que le côté humoristique des pièces de Jacques Audiberti est une chose extrêmement importante et sur laquelle il faudrait insister, car si Jacques Audiberti est un poète et un auteur, c'est également un homme qui sait apporter au théâtre une couleur nouvelle. Une couleur assez surprenante qui réserve des surprises. C'est pourquoi ces spectacles ne se passent jamais devant une salle indifférente. Ils suscitent ou des admirations franches ou quelques discussions, mais de toute façon sa charge personnelle qui permet, si vous voulez, à un metteur en scène de réaliser des images d'une couleur violente ou d'une couleur discrète quand il s'agit plus spécialement de la chose poétique est un apport nouveau et un apport important dans cette espèce de théâtre qui de plus en plus perd son sang et oublie un peu ses sources.
Est-ce que vous pensez qu'une des causes du succès d'Audiberti et qu'une des raisons profondes de sa valeur est cette espèce de synthèse qu'il a su réaliser et que seuls réalisent les grands auteurs dramatiques entre une langue exceptionnelle et cependant qui exprime des sentiments vrais et simples?
Je crois que ce que vous dites...
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas complexes.
Non, je crois qu'au contraire, Jacques Audiberti apporte aussi bien aux comédiens qu'aux metteurs en scène une énorme réserve de, non seulement de synthèse qui est à base de vérisme, si vous voulez, d'une part, mais aussi une synthèse qui se repose sur l'invention la plus libre. Ce n'est pas un homme qui cherche les mots, il les invente au besoin pour leur donner une espèce d'agression immédiate et valable et même nécessaire au théâtre. C'est pourquoi ces textes passent si bien la rampe et c'est pourquoi au carrefour de chacune des répliques, on peut inventer des jeux de scène. Ils peuvent être multiples. Je me suis amusé à la reprise du Malcourt à essayer de modifier certains mouvements scéniques par rapport à la création déjà enfin faite en 1947 et je me suis aperçu que ce jeu aurait pu m'amener très très loin car ce n'est pas seulement trois, quatre ou cinq mouvements nouveaux que chacune des répliques peut ou aurait pu me permettre, mais presque des centaines de variantes. Et je crois que c'est dû à cette charge authentique, à cette force interne que le texte de Diberti draine, enfin, à longueur de page.
Mademoiselle Suzanne Flon, à l'occasion de la création du Malcourt, se sont révélés concurremment le dramaturge qu'est Jacques Audiberti et la comédienne que vous êtes. Est-ce qu'on peut vous demander de bien vouloir évoquer, de votre point de vue de comédienne, cette création et les souvenirs qui vous en sont restés?
C'est certainement un de mes plus beaux souvenirs de théâtre, mais il a failli ne pas avoir lieu. Parce que, après avoir répété 4 ou 5 fois, j'ai eu peur de ne pas être capable de jouer ce rôle. Et je suis venue trouver Georges Vitali en lui disant « Non, c'est pas possible, je crois qu'il vaut mieux que vous cherchiez une autre interprète. » Et il a dû user de moyens convaincants très forts pour arriver à me persuader que je pourrais le jouer.
Mais peut-on vous demander pourquoi vous alliez renoncer à ce rôle qui s'est révélé comme votre premier grand rôle?
Ben oui, parce que c'était précisément mon premier grand rôle. Je n'avais joué jusqu'alors que des rôles intéressants, mais courts, et que c'était inquiétant tout de même pour une jeune comédienne qui n'avait pas encore beaucoup de métier d'assumer un rôle comme celui-là, parce qu'il est non seulement long, mais il est particulièrement difficile.
Vous aviez, vis-à-vis de ce personnage que vous avez créé et modelé depuis, une sorte de timidité.
Oui, une timidité, une angoisse, je peux dire.
Cette angoisse était-elle due partiellement au texte de Jacques Audiberti, dont la richesse est exceptionnelle?
Oui, c'est à la fois d'une richesse exceptionnelle et d'une forme un peu particulière et assez difficile tout de même. C'est merveilleux, mais quand on aborde ce texte, c'est assez normal qu'on ait des inquiétudes. Je me souviens même que plus tard, après avoir joué des rôles plus importants, je me disais si on me proposait maintenant le Malcourt, si je ne l'avais pas joué déjà, peut-être que j'hésiterais même maintenant à le jouer. Parce que vraiment, c'est très difficile.
Est-ce que ce personnage, la seconde fois que vous l'avez abordé, cette fois sans la timidité dont vous nous avez parlé tout à l'heure...
Sans la timidité, mais avec autant d'inquiétude. Je crois que j'ai jamais eu tant le trac de ma vie qu'à cette reprise du Malcourt.
Et pourtant, vous aviez entre-temps joué des rôles extrêmement importants
dans
d'autres théâtres
aussi,
difficiles dans un autre genre.
Oui.
Peut-on vous demander où vous portent vos goûts, puisque d'une part, vous interprétez des pièces qui sont des chefs-d'œuvre du théâtre littéraire comme le Malcourt, et d'autre part, on n'oublie pas que vous avez créé des pièces qui sont des chefs-d'œuvre du théâtre de boulevard comme La Petite Hutte.
Oh, mais j'aime tout, j'aime tout. Je trouve qu'il est amusant justement de se déplacer, de jouer. Quand une pièce est réussie, qu'elle appartienne à quelque genre que ce soit, je trouve que c'est valable. Enfin, une bonne pièce de boulevard, si elle est bien réussie, j'aime beaucoup.
C'est cela, selon vous, la comédienne, être capable de jouer aussi bien un
théâtre
littéraire
qu'un
théâtre de boulevard.
Oui.
Monsieur Audiberti, je suis assez embarrassé par la multiplicité des thèmes que je pourrais traiter avec vous, étant donné que votre personnalité d'écrivain est multiple. Aussi bien auteur dramatique que romancier, qu'essayiste, que poète et que critique. Il faut donc nous limiter... Et limitons-nous, si vous le voulez bien, d'abord à vos dernières œuvres. Je crois que votre dernière, comme essayiste, s'appelle Les Enfants Naturels.
Exactement, oui.
Et quel est le sujet des Enfants Naturels?
Eh bien, c'est un petit texte où je m'efforce de mettre en lumière, d'une manière assez peu méthodique d'ailleurs, le caractère paradoxal de certaines filiations. Je choisis notamment quelques-uns de nos hommes de lettres contemporains, et je m'efforce, en m'y amusant, de discerner dans quelle mesure ils sont les enfants non pas de leur père et de leur mère, mais d'autres hommes de lettres qui, dans le passé, ont pu amorcer l'œuvre des 10 contemporains. C'est-à-dire qu'un André Breton ou un François Mauriac sont plus ou moins les représentants d'hommes de lettres, d'écrivains et de poètes qu'ils ont précédés il y a bien longtemps. Je n'ai pas d'exemple plus précis à la mémoire maintenant.
Mais cette recherche, vous l'avez faite non seulement pour les hommes de lettres, mais également pour bien d'autres.
Pour bien d'autres
choses.
Vous
l'avez fait pour les peintres et les musiciens aussi?
Pas tellement pour les peintres et les musiciens que pour certaines formes de vie qui nous entourent. Par exemple, il me vient maintenant à l'esprit que je me suis amusé à dire que la Vespa n'est pas la fille de la motocyclette, comme on pourrait le croire, mais la fille du fauteuil roulant de malade.
Oui, en effet, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Mais ça va être extrêmement loin, par conséquent. Votre livre, vous pourriez même en écrire plusieurs sur ce sujet qui est immense.
Oui, en effet, qu'est-ce qui sait, en effet, cette exploitation d'une mine féconde.
Vous l'avez fait, comme vous dites, sans méthode, et surtout, je pense, avec humour.
Je m'y suis efforcé. Enfin, l'humour est en moi une espèce de troisième ou de quatrième nature.
Et après l'essai, arrivons au romancier et à votre dernière œuvre, qui est La Poupée.
La Poupée, oui, exactement. La Poupée raconte une révolution en Amérique du Sud, mais puisque cette émission est plus spécialement consacrée au théâtre, nous pouvons trouver là une liaison peut-être intéressante avec le théâtre, entre la littérature et le théâtre, en ceci que La Poupée est un roman où le dialogue et l'action des personnages l'emportent sur le côté descriptif qui, généralement, est marqué dans tous les romans. La Poupée serait une sorte de pièce de théâtre étirée ou disposée en roman.
Style direct, par conséquent.
Style direct. Les gens agissent et les gens en parlent au bénéfice de la progression de leur action.
Mais est-ce chez vous un procédé différent de ceux que vous avez employés précédemment autres œuvres ?
C'est un procédé dont je prends conscience, parce que je pense en effet que l'efficacité d'une pièce de théâtre, et peut-être aussi d'un roman, est liée à la clarté, à la décision et au dessin net des caractères, des faits et des gestes des protagonistes.
Et ceci nous amène en effet par une transition toute naturelle au théâtre. Je crois que vous en êtes à votre troisième tome publié.
À mon troisième tome publié, oui.
Ce qui représente déjà une œuvre, par conséquent, assez considérable. Combien de pièces au total jouées déjà ?
Cela fait, je dois avoir eu 8 ou 9 pièces de jouées, et ça fait 12 pièces d'imprimées.
Et puisqu'il nous faut nous limiter, et parlons moins du présent que surtout du futur, de l'avenir. Par conséquent, il y a évidemment Le Malcourt, qui est toujours en cours de représentation, comme nous le savons. Mais je voudrais que nous parlions surtout des pièces prévues dans votre quatrième tome, qui sont des pièces inédites, je crois.
Ce sont des pièces inédites, oui. Il y a une pièce qui s'appelle La Logeuse, qui est une pièce en trois actes, où le mythe de Circé, qui est un des bons vieux mythes de la mythologie humaine, a été par mes soins rhabillé au niveau de notre existence parisienne actuelle. Oui. J'ai placé cette bonne Circé dans la peau et dans les atours d'une dame que nous pourrions rencontrer à Paris en ce moment. Et dans cette pièce qui s'appelle La Logeuse, donc, j'ai encore une fois, comme dans La Poupée, essayé de m'en tenir à la plausibilité directe, immédiate des rapports et des conversations entre des êtres vivants possibles et plausibles, en tenant compte de la nécessité d'une synthèse pour la présentation scénique, bien entendu.
Mais en fait, le souci de réalisme, n'est-ce pas ?
Souci de réalisme. L'autre pièce, Le Walou, est une farce qui met en cause et en question les déboires de chefs de la police qui s'incarcèrent les uns et les autres dans une sorte de fuite éperdue, ceci sans allusion à quelque procès que ce soit. Et les deux autres pièces sont des pièces plus résolument lyriques.
Qu'entendez-vous par lyrique ?
Ce sont des sortes d'opéras où les acteurs pourraient à la rigueur être interprétés par des barytons et des basses, et où ils ne boudent pas, le cas échéant, l'alexandrin ou l'octosyllabe.
Nous arrivons par conséquent à trouver deux caractéristiques, semble-t-il, essentielles dans votre œuvre. Nous avons dit l'humour tout à l'heure et nous disons maintenant la poésie.
La poésie.
Je crois que ce qui marque votre œuvre, c'est que ces deux éléments se complètent.
Se complètent et en ce qui concerne l'efficacité théâtrale, se combattent ou plus exactement sont souvent en conflit car en effet, l'homme de théâtre ne sait jamais duquel il doit tirer le plus de substance et sur lequel il doit compter davantage, de l'humour et du ton lyrique. Il faut les combiner, il faut ménager à l'un et à l'autre un espace respectif qui n'empiète pas trop sur le voisin et sur le concurrent. Ces questions sont extrêmement intéressantes, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui font du théâtre. Il s'agit de trouver le moyen de toucher vraiment le public, n'est-ce pas, sans être pédant, sans être scolaire, et sans non plus être vulgaire. Ces questions sont en effet très, très importantes, surtout quand il s'agit d'adaptation.
Ah oui, nous arrivons maintenant au dernier aspect de votre œuvre. Nous avons passé très rapidement sur votre œuvre personnelle, et nous arrivons à un dernier aspect de votre œuvre, c'est-à-dire aux adaptations.
Oui.
Parlons d'abord des adaptations passées, avant d'envisager celle de Shakespeare qui est prévue. Vous avez adapté quelles pièces ? Des pièces italiennes,
je crois. J'ai adapté, le hasard l'a voulu ainsi, et non point le I qui est au bout de mon nom, j'ai adopté des pièces italiennes. Il s'est trouvé que j'ai adopté des pièces, que j'ai adopté et adapté des pièces italiennes. Je voulais dire adapté, j'ai dit adopté, c'est un lapsus, je m'en excuse.
Mais c'est vrai des deux façons, en réalité. Oui. Qui sont marquées par une recherche de bouffonnerie aussi, je crois.
Non, il y a eu trois pièces. Albertina, qui est une pièce de Valentino Bompiani, Madame Filoumé, qui est de l'illustre Edoardo De Filippo, et une pièce de Beniamino Iopolo, où il est question de carabinier qui joue. Il joue.
Et qui a été donné notamment dans le parc de Watteau, où Watteau est mort.
Mais le gros morceau maintenant, c'est évidemment la mégère apprivoisée.
Oui, avec laquelle Pierre Brasseur doit, avec Suzanne Flon, faire la réouverture de l'Athénée, n'est-ce pas?
Oui.
Alors le problème essentiel, dans un cas comme d'adaptation comme celui-là, dans quelle mesure arrivez-vous à concilier le respect que vous devez avoir de Shakespeare et votre tempérament personnel?
Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'adaptation est vraiment la pierre de touche de la virtuosité de l'homme de théâtre ou de sa bonne volonté, car c'est à la fois très facile, n'est-ce pas? Il suffirait en principe de traduire, et très difficile, parce que si l'on se borne à traduire, on peut donner un texte exact et fidèle, mais qui n'aura qu'une fidélité photographique un peu poussiéreuse, n'est-ce pas? Donner l'équivalence théorique des mots de la langue étrangère dans notre langue ne suffit pas à donner à ce nouveau texte la vie et l'action et la chaleur qu'ils rendront aimables et qu'ils rendront contagieux dans la sympathie et dans l'affection de ceux qui l'écouteront. Donc, que faire? Faut-il garder le texte initial dans sa version à la fois fidèle et sèche, ou faut-il, au contraire, même s'il s'agit d'un monument d'humanité comme Shakespeare, avoir le courage, en quelque sorte, un courage dicté par l'affection, par l'amour et par le respect, de gommer l'original pour lui substituer quelque chose qui sera davantage dans la vibration de nos jours, de nos heures, de nos amours, de nos craintes, de nos terreurs, de toutes sortes de choses qui ne s'expriment pas par des palsambleu ou par des parle-diable qui avaient peut-être une valeur il y a 300 ans ou 400 ans, mais qui n'en ont aucune maintenant, qui s'exprimeraient au contraire par des formes elliptiques, par des raccourcis, par des tours grammaticaux qui sont ceux qui sont dans nos bouches et dans nos oreilles à chaque instant du jour. C'est, je le répète, un problème important. Faut-il être fidèle dans la sécheresse poussiéreuse, ou faut-il être fidèle dans l'indépendance, dans une indépendance, encore une fois, nourrie de véritables et de profondes fidélités?
Nous voulons parler du problème d'adaptation qui se pose en ce qui concerne la terminologie elle-même. Mais il y a un autre aspect du problème, c'est le fond. Est-ce que vous avez envisagé une modification quelconque de l'intrigue, ou est-ce que vous laissez telle que la pièce se dérouler?
Je pense que quant au fond, la mégère apprivoisée est une fois pour toutes le drame du mariage, plus exactement le drame du couple. Il n'y a pas de sujet qui soit plus au centre des préoccupations de nos contemporains et des nôtres, nous qui sommes ici en ce moment. Le drame du couple est traité dans la mégère apprivoisée, d'une manière extrêmement suffisante, d'une manière complète. Il s'agit, je le répète encore une fois, de trouver dans le revêtement verbal les articulations qui rendront ce drame extrêmement sensible et présent.
En somme, le fond est éternel, c'est l'apparence seulement qui est changée.
C'est l'apparence qui mérite peut-être qu'on ait le courage de se livrer à quelques amodiations. Mais je crois que je commence maintenant à bafouiller, parce que vous m'avez entraîné sur un terrain extrêmement brûlant. Shakespeare, et tout ce que je dirais ne pourra que me faire courir le risque de paraître impertinent à l'égard d'un nom qui dépasse de beaucoup les nôtres.
L'émission de René Villemé, Plein feu sur les spectacles du monde, avec Georges Vitali, Suzanne Flon et Jacques Audiberti, a été diffusée pour la première fois le 14 septembre 1956 sur la chaîne nationale. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.